Bonjour, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui le docteur Christophe Fauré à l'occasion de la parution de son livre « Cette vie et au-delà » aux éditions Albin Michel. Bonjour docteur.
Bonjour, le sous-titre est important Nathalie, c'est
Bonjour.
« Cette vie et au-delà, enquête sur la continuité de la conscience après la mort ». Ce sous-titre
Vous avez
est vraiment
raison.
Important. Oui.
Vous avez raison, tout à fait. Bonjour Aubry.
Bonjour.
Bonjour Aubry.
À toi l'honneur, Aubry.
D'accord. Alors pour commencer, on voulait vous demander de nous présenter les principales expériences autour de la mort que vous avez étudiées dans votre livre.
D'accord. Alors d'abord, c'est important de préciser que dans ce livre, je me fais le porte-parole de toutes les de très nombreuses études anglo-saxonnes, Angleterre et États-Unis, universitaires avec des psychiatres, des chercheurs, enfin vraiment des gens qui ont une reconnaissance académique et qui ont véritablement déjà fait tout ce travail. En fait, mon rôle était vraiment de transcrire au public français, francophone, ces expériences. Hein. Il y a peu de choses au bout du compte qui sont véritablement de fruits de mes recherches, mais c'est vraiment transmettre, simplifier pour le rendre accessible ces différentes études. Donc c'est important d'emblée comprendre qu'on est sur un domaine scientifique. Hein, c'est important. On n'est pas sur le domaine de croyance, quoi que ce soit. Ce sont tous les extraits d'études scientifiques et publiés dans des grands journaux scientifiques anglo-saxons. Là, c'est vraiment essentiel à préciser. Alors, ces études étudient quatre grands pôles qui sont des expériences spontanées. Par souhait, je n'ai pas inclus la médiumnité. Parce que la médiumnité, c'est une expérience qui se fait par l'intermédiaire d'un tiers, d'une autre personne, donc le filtre d'une autre personne. Là, les quatre expériences que je décris dans le livre sont des expériences spontanées. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est vraiment l'expérience directe de la personne sans aucun filtre. Et ces quatre expériences, quelles sont-elles? Les expériences de mort imminente, ce qu'on appelle les expériences de fin de vie, le vécu subjectif de contact avec un défunt, qu'on appelle VSCD, quelque chose qui est beaucoup moins connu et beaucoup plus mystérieux pour nous occidentaux, c'est le souvenir de vie passée de jeunes enfants, entre 2 et 2, 6, 7 ans, on verra plus tard. Donc, grosso modo, la première sont les expériences de mort imminente. Là, je vais vraiment, vraiment rapidement, parce que ce serait tellement long de détailler chacune d'elles. Grosso modo, en situation, pas toujours, hein, mais la plupart du temps, en situation d'arrêt cardiaque, arrêt du fonctionnement de l'activité du cerveau, il y a lors d'un accident, lors d'une intervention chirurgicale qui tourne mal, enfin, lors d'une noyade, enfin quoi que ce soit, la personne se perçoit sortir de son corps, donc avec la capacité de percevoir très clairement avec une pensée très aiguë, très vive, tout son environnement qu'elle sera après en mesure de décrire, même à l'endroit où est son corps, mais parfois des endroits qui sont loin, loin de son corps, alors qu'a priori, elle n'a pas la capacité de pouvoir percevoir ces choses ou ces personnes, ces événements à distance. Sortie de corps, et les gens décrivent, je fais très vite, hein, la perception d'un tunnel dans lequel ils s'engagent à grande vitesse, et au bout de ce tunnel, il y a la perception d'une énorme lumière, d'une grande lumière qui est décrite comme un être de lumière, c'est décrit comme quelqu'un avec quelque chose qui a une conscience avec laquelle ils interagissent. Et une des caractéristiques de cette lumière, c'est qu'elle émane un amour indescriptible hein, qui inonde les personnes qui vivent l'expérience de façon très, très, très puissante à ce niveau-là. Et il y a au bout du compte une question qui est posée plus ou moins. Là, je vous décris l'expérience complète. Hein. Les gens, parfois, ne font pas toute l'expérience complète, là, mais c'est l'expérience complète. Il y a cet être de lumière semble poser une question, mais qu'as-tu à me montrer de ta vie en deux choses, comment as-tu aimé et qu'est-ce que tu as appris de toi, des autres, du monde, de la réalité? Et il y a ce qu'on appelle entre 14% et 20% des personnes, ce qu'on appelle un panorama de vie, c'est-à-dire que les gens voient passer à toute vitesse en 3D leur existence dans ses moindres détails. Avec un point important, ils perçoivent les situations de leur point de vue, mais ils perçoivent également la situation du point de vue des personnes avec lesquelles elles ont interagi. C'est-à-dire, si elles ont manifesté de l'amour, de l'affection, de la tendresse, de la bienveillance à quelqu'un, ils ressentent intrinsèquement l'effet chez l'autre personne de cette bienveillance sur les courts, moyens, longs termes. De même, s'il y a une interaction où il y a beaucoup d'agressivité, de violence, de colère et tout, la personne, envers une personne, la personne qui fait l'expérience ressent également elle-même l'impact de la colère, l'impact de la violence sur cette personne-là, sur le court, moyen, long terme. Et c'est d'ailleurs cette prise de conscience de combien nos actes, nos paroles, nos actions, nos décisions ont un impact profond, directement vécu par soi pendant l'expérience, sur les autres, qui va induire après des transformations assez profondes dans la manière de vivre la vie après l'expérience. Donc, après ce récit, après ce panorama de vie, où il n'y a pas de condamnation extérieure, pas un Dieu extérieur qui condamne c'est bien, c'est pas bien, c'est uniquement les personnes qui ont un regard sur ce qu'elles ont, comme s'il y avait un voile qui était enlevé de leurs yeux et qui permettait vraiment d'avoir une évaluation très précise, très aiguë de ce qu'ils ont vécu. Il y a un moment donné, après cette panorama de vie, comme une question qui est posée, est-ce que tu veux revenir ? Parfois, il y a deux situations. Parfois, les gens peuvent rencontrer, ah oui, j'ai oublié, ils peuvent parfois rencontrer des proches décédés qui viennent à leur rencontre de façon bienveillante, qui semblent les accueillir. C'est bizarre à formuler comme ça, mais c'est exactement ça qui se passe, les accueillir. C'est toujours dans une atmosphère très, assez douce, mais il y a des EMU négatives, hein, il faut le souligner. Et il y a un message qui est dit, il faut que tu retournes. Soit la personne décide, je dois retourner dans ma vie, j'ai des choses à terminer, soit on leur impose, disant non, tu dois retourner en arrière, tu as encore des choses à faire. Et ça, c'est essentiel. Cette idée de « tu as des choses à faire », ça laisse supposer qu'au-delà de toutes les souffrances de nos vies, des vicissitudes, des douleurs de notre vie, il y aurait quelque chose à faire, hein, quelque chose à faire dans cette vie. Cette vie serait donc, en dépit de toutes les souffrances qu'on peut rencontrer, elle aurait du sens, il y aurait quelque chose qui serait intrinsèque à cette vie, qui nous est demandé de vivre ou d'apprendre. En tout cas, c'est comme ça que les gens le vivent, et il y a décision de retour où on leur impose de retourner dans leur corps, et hop, ils retrouvent leur corps, soit en situation d'accident, soit sur la table d'opération, soit etc., etc. Et par la suite, les gens ont beaucoup de mal à faire part de cette expérience-là parce qu'ils ont peur d'être pris comme fous, la peur de les ridiculiser. Donc beaucoup de gens se taisent. Et il y a, après plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois même plusieurs années, l'intégration de cette expérience, le sens que ça prend pour eux dans leur existence, avec des transformations très importantes dans la relation à soi-même, à autrui, aux autres, toujours sur un sens de plus d'ouverture de cœur, plus de conscience de soi-même, de l'autre, la qualité relationnelle, l'importance de l'amour dans une existence humaine, mais également l'importance de la connaissance, de la sagesse, de vraiment de l'intime, de ce qui fait le réel, avec une diminution également de la dimension religieuse et au profit d'une augmentation de la dimension spirituelle. Et il y a également une baisse de l'appétence à la compétition, au statut social, choses comme ça, enfin une transformation qui s'opère. Donc ça, c'est grosso modo les expériences de mort imminente, mais j'insiste, il y a aussi des expériences de mort imminente négatives. On ne va pas aller trop dans le détail, j'en parle dans le livre, mais ce n'est pas toujours rose. Alors qu'on a cru longtemps que ces EMI étaient toujours positives, et on se dit, les gens vont se suicider, parce que non, il y a des EMI qui sont négatives, mais ce serait beaucoup trop long d'en développer. Et ça a été, là encore, étudié. Il y a peu d'articles scientifiques, mais il y a des articles scientifiques qui ont été étudiés, qui étaient publiés à cet égard-là. Ça, c'est la première expérience. La deuxième, ça renvoie à ce qu'on appelle les expériences de fin de vie. Alors, qu'est-ce que c'est une expérience de fin de vie ? C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent quand on accompagne les personnes en fin de vie. Moi, j'ai été psychiatre en unité de soins palliatifs, et ce sont des choses dont j'étais soit témoin, soit en écoutant les infirmières, les soignants, les autres collègues à l'hôpital, ou même les proches qui font part, ou même les personnes en direct, personnes qui font part de quoi ? D'une perception. Ils sont là, ils sont en fin de vie, ils ne sont pas confus, il n'y a pas de confusion mentale, il n'y a pas d'atteinte cérébrale, ce qui fait que les études qui ont été menées sur ces personnes-là ont pris soin de prendre des personnes qui n'avaient pas de la confusion mentale, qui n'étaient pas hallucinées, qui n'étaient pas sous l'influence de médicaments, pour véritablement avoir une conscience aussi claire que celle qu'on a en ce moment. Et des gens qui décrivent c'est bizarre à dire, mais c'est comme ça, qui décrivent, qui perçoivent des proches, des proches décédés. C'est toujours des proches décédés qui, soit qu'ils interagissent avec eux, soit qu'ils sont juste présents. Ils viennent dire, bah, tiens, je vois mon mari décédé, je vois ma grand-mère décédée, je vois ma fille décédée. Et comme si c'est décrit par eux, comme si c'était extrêmement paisible, comme s'ils les attendaient pour les accueillir après de l'autre côté. Comme s'il y avait la perception, c'est une charnière entre cette dimension et cette autre dimension qu'il serait, on peut utiliser que le conditionnel, qu'il serait amené à rentrer après leur décès. Mais c'est vécu de façon extrêmement paisible et vraiment sereine, la perception de proche. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces études qui ont été menées sur avec les personnes en fin de vie, leurs proches et les soignants, c'est qu'on observe parfois des expériences de fin de vie partagées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne fait part de son expérience, mais des proches, donc ils ne sont pas malades, ils ne sont pas, et même des soignants, donc ils n'ont pas de lien émotionnel particulier avec la personne, perçoivent en même temps la même chose et peuvent échanger des informations. Donc on n'est pas dans un cas d'hallucination collective, il y a vraiment, la personne fait une expérience qu'elle décrit, elle est en mesure de communiquer avec les proches ou les soignants, et certains soignants ou proches perçoivent la même chose. Là, c'est vraiment assez troublant, parce que là, ça met à distance, enfin, c'est difficile de dire que c'est simplement un événement neurologique chez la personne malade, puisqu'il y a d'autres personnes qui ne sont absolument pas malades, ni rien du tout, ni sous médicaments, ni rien, qui font aussi l'expérience. Et c'est toujours...
Est-ce qu'il y a des expériences de fin de vie négatives, pour le coup ?
Des expériences de fin de vie négatives, alors c'est difficile à dire, parce qu'il y a, lors de la fin de vie, il peut y avoir des réactivations de traumas, de traumatisme du passé, par exemple. Hein. Je me souviens d'un cas d'un monsieur qui avait fait la guerre et lorsqu'il, en fin de vie, il avait des réémergences de scènes de guerre, de scènes violentes comme ça. Ou alors des personnes qui avaient eu des abus, qui avaient comme des bulles qui remontent à la conscience. Mais c'est pas, là, ce sont des événements de leur vie.
Oui, c'est ça.
Les expériences de fin de vie ont la caractéristique de rencontres avec des proches décédés qui est là. Et c'est intéressant de voir que cette rencontre avec les proches décédés est la même chose qui se passe pendant les expériences de mort imminente. Il y a rencontre de proches décédés qui sont accueillants. Dans l'expérience de mort imminente, les personnes disent « Non, tu dois retourner dans ta vie, il y a des choses à faire dans ta vie. » Alors que là, les personnes de fin de vie semblent accueillir en disant « Tu vas bientôt me rejoindre. » Avec parfois des indications quand la personne va partir. La personne, un petit garçon qui dit à sa maman, écoute, j'ai vu ma grand-mère, elle m'a dit que dans 2 jours, je la rejoindrai. Et 2 jours après, le petit garçon décède. Dans les expériences de fin de vie, il y a aussi d'autres choses qu'on appelle les expériences de fin de vie, ça peut être aussi à l'état de veille et à l'état de rêve. Des rêves très, très, qui n'ont pas le caractère symbolique et compliqué des rêves habituels, où on perçoit de façon très clair, très sobre, un proche décédé qui dit « tu vas bientôt me rejoindre ». C'est souvent des rêves courts. Enfin, il y a également dans ces expériences de fin de vie ce qu'on appelle la lucidité terminale. La lucidité terminale, il n'y a aucun moyen de l'expliquer médicalement, ce n'est pas du tout comment ça se passe. Et surtout, c'est très compliqué à étudier, je vais vous dire pourquoi. Ce sont des moments où des personnes ont été dans le coma, où on a une atteinte cérébrale majeure avec une dégénérescence comme un type Alzheimer, où ils ne reconnaissent plus leurs proches depuis 5 ans, 10 ans, ou alors des gens qui ont des métastases cérébrales, des atteintes cérébrales tellement majeures qu'elles sont complètement déconnectées. Et peut-être 5 minutes ou 1 heure, ou parfois même une demi-journée, mais c'est beaucoup plus rare, parfois c'est quelques minutes, juste avant le décès, donc c'est un indicateur de mort imminente, il y a d'un seul coup la conscience claire qui réémerge. La personne peut reconnaître ses proches, alors qu'elle ne reconnaît plus depuis parfois des années, parler, interagir, se souvenir, mais comment vas-tu, comment va ton petit garçon, comment va ton mari, quels sont tes projets et tout. C'est un truc complètement fou pour les proches qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et la médecine est... On est complètement... Moi, je n'en ai jamais été témoin, parce que c'est compliqué à étudier, parce que comme on ne sait pas qui va en faire, et que ça dure peut-être parfois 5 ou 10 minutes, là, on n'a pas le temps de créer un protocole de recherche là-dessus. Mais C'est des choses qui vont. Je crois qu'il y a une équipe à Metz ou à Nancy, je crois, qui souhaite lancer un protocole de recherche pour voir, essayer de regrouper le plus d'informations. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'expérience de fin de vie, mais grosso modo, c'est ça. Donc, EMI, expérience de mort imminente, expérience de fin de vie. Le troisième, ce qu'on appelle le vécu subjectif de contact avec un défunt, VSCD. Alors ça, je suis témoin de cela. J'accompagne beaucoup le deuil, notamment le deuil traumatique. Et depuis plus de 30 ans maintenant, j'entends régulièrement, mais régulièrement, à peu près chez 40-45% des personnes, ce qui est énorme en termes de statistiques, et c'est validé par des études qui ont été menées à grande échelle au niveau européen et aux États-Unis, que c'est VSCD, After Death Communication, ADC en anglais, c'est quoi? La personne en deuil, mais pas que en deuil. À partir du moment du décès jusqu'à à peu près 6 mois en moyenne, 1 an maximum, mais parfois il y a des gens qui font des VSCD beaucoup plus prolongés, parfois même toute leur vie, mais la plupart du temps c'est une expérience qui est une ou deux ou trois fois parfois, très courte, très brève, de quelques secondes, et qui est la perception de la personne décédée. La perception, c'est dingue, hein? La perception de la personne décédée qui est décrite comment? Qui est décrite soit une très 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 forte présence, elle n'est pas perçue visuellement, mais une très très forte présence pendant quelques secondes de la personne, et parfois ça surprend les personnes de sentir cette proximité. Ça peut être des perceptions visuelles, auditives, olfactives, oui, de tactiles, mais ça peut, et qui survient de façon brève avec toujours des ce qui est véhiculé, c'est un message d'apaisement. Genre, je vais bien, tout va bien. Ça peut se passer en plein jour comme durant la nuit, en pleine conscience au moment où on est en train de s'endormir. Et il y a quelque chose qui est toujours extrêmement positif pour les personnes. Ce n'est pas quelque chose qui fait peur. Pourquoi je disais que ce n'est pas forcément lié au deuil? Parce qu'on pourrait dire oui, mais. Vous comprenez bien, c'est des gens qui sont dans la souffrance du deuil. Évidemment, ils vont fabriquer une expérience pour retrouver la personne. Là, il y a deux objections à ça. La première, c'est que je ne connais pas une seule maman, un seul papa, un seul compagnon, compagne qui adore la personne disparue, qui ne souhaite pas plus que tout retrouver cette personne-là, établir un contact et qui ne le fait pas. Qui ne fait pas du tout de VSCD. Ce n'est pas lié au lien d'amour du tout. On ne sait pas pourquoi, ce qui détermine une VSCD. Mais si le désir fort d'être en lien avec la personne était l'agent moteur qui crée une VSCD, bah, tout le monde ferait des VSCD. Hein, or, ce n'est pas le cas. Et la deuxième objection, c'est que parfois les personnes ne se savent pas encore en deuil. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les VSCD d'information. Ils ont connaissance du décès de la personne par le VSCD. Une femme, par exemple, qui perçoit son fils et qui lui apparaît pendant quelques secondes et il lui apparaît couvert d'eau, puis après, progressivement, il se trouve auréolé de lumière, ça dure quelques secondes et elle apprend quelques heures plus tard que son fils est mort dans un accident de voilier, alors qu'elle et l'heure correspond exactement au moment où elle a fait le VSCD. Donc, elle ne savait pas qu'elle avait perdu son fils et pourtant il y a eu cette expérience-là. Donc, comment notre esprit, pourquoi notre esprit fabriquerait une expérience de protection contre une souffrance dont on n'a pas conscience du tout, qu'on apprend après, dans l'après-coup. Donc, c'est vraiment. Et parfois, il y a d'autres informations qui sont données de façon parfois très prosaïque. Tel document se trouve à tel endroit. Donc, des données que la personne ne peut pas savoir. OK. Ça, c'est les VSCD. Et dans l'accompagnement du deuil, ce sont vraiment des choses qui sont vraiment importantes à valider pour les personnes qui l'ont fait, parce que c'est une telle violence de dire, mais non, mais c'est n'importe quoi, tu imagines, c'est toi, alors c'est toi qui délire, alors qu'il y a véritablement quelque chose là qui est important à souligner. Entre parenthèses, ce livre se veut aussi un appel à la formation des médecins, infirmières, aides-soignants, enfin toute personne qui intervient auprès des personnes malades, mais aussi des psychiatres, psychologues, psychothérapeutes et autres, des personnels funéraires. Enfin, c'est un appel véritablement à se former à ces questions parce que la personne qui les fait a parfois véritablement besoin de partager son expérience-là parce qu'elle n'arrive pas à lui donner du sens. Elle ne sait pas ce que ça veut dire, comment l'intégrer dans sa vie, parce que parfois il y a des repères qui explosent, sa vision du monde qui explose. Et donc, si la personne trouve des soignants ou des psys qui connaissent l'expérience, qui peuvent aider la personne à dire « oui, ceci existe, il y a des études qui parlent de ces choses-là, ça semble corroborer ce que vous êtes en train de vivre », donc offrez aux personnes un cadre dans lequel ils peuvent intégrer leur expérience. Si on dit « mais c'est n'importe quoi, tu délires et tout », eh bien on enferme la personne dans une espèce de solitude et elle doit gérer quelque chose qui est son expérience. Hein. Qu'elle soit subjective ou pas, c'est une expérience qu'elle a faite et elle a besoin de trouver un moyen de l'intégrer dans sa vie. Ok, il y aurait beaucoup à dire par rapport à ça. Le quatrième type d'expérience, là j'en ai pas eu l'expérience directe. Hein. Les trois premières, oui, avec des patients ou des proches. Mais la quatrième, c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup moins bien, ce qu'on appelle les souvenirs de vie passée chez les jeunes enfants. Ça a été étudié depuis les années 60, ça fait quand même longtemps, par le psychiatre Ian Stevenson, et qui a créé à l'Université de Virginie, aux États-Unis, le DOPS, Division of Perceptual Studies, DOPS, qui existe toujours, hein, qui continue ses recherches à la fois sur l'expérience de mort imminente et aussi sur les témoignages de jeunes enfants. C'est quoi? C'est un petit enfant à peu près de 2 ans, 3 ans, qui commence à dire à sa maman ou à son papa « je veux rentrer dans l'autre maison. Je veux, avant, j'habitais dans tel endroit », puis donne des noms. « Ma femme s'appelait comme ça », un petit garçon, il a 3 ans. Hein. « Ma femme s'appelait comme ça. Je suis mort comme ça. Je suis mort dans tel endroit. » Et l'enfant décrit une vie. Et donc, Stevenson a mené des recherches pendant des décennies extrêmement poussées. C'est ça qui est important à souligner. Il a vraiment tout fait pour démontrer que, pour écarter le plus possible les hypothèses de réincarnation, parce que c'est comme ça qu'on le désigne, et en envisageant tout le temps les autres possibilités, mais au bout du compte, ce sont des récits sur les 2600 cas qui ont été répertoriés de façon super précise, avec des noms, des localisations, des liens de parenté, des circonstances de décès, qu'il a vérifié après avec des comptes rendus d'autopsie, les comptes rendus de police, quand une fois qu'on avait identifié les personnes. Il y a eu 1700 personnes qui ont été identifiées, donc qui correspondaient aux descriptions des enfants.
C'est
énorme. Hein. Et ce qui était étonnant, c'est que 75% des vies des personnes décédées, c'était des morts brutales, accidentelles. Là, on ne sait pas si c'est un facteur favorisant pour se souvenir. Et après, ce qui est étonnant, c'est que parfois, on trouve des marques de naissance sur le corps de l'enfant. Et Stevenson a fait 3 volumes de 2000 pages là-dessus, où il fait la correspondance entre le type de lésion qui avait provoqué la mort dans ce que décrit l'enfant et certaines marques de naissance que l'enfant portait sur lui. Il y a aussi des phobies de l'eau, des phobies de... ou alors des habitudes alimentaires ou des habitudes comportementales qui ne correspondent pas du tout à la famille de l'enfant, mais en fait correspondent complètement aux habitudes ou au mode de décès de la personne décrite par l'enfant. Et progressivement, les enfants oublient cela, et vers 6, 7, 8 ans, les souvenirs s'estompent. Il n'y a à peu près que 30% des personnes qui se souviennent très confusément. Et il y a des études qui ont été menées sur quel est l'impact psychologique, émotionnel sur ces enfants. Il n'y a aucune différence. Ce sont des enfants après qui grandissent et qui investissent leur vie sans parasitage avec cette notion de vie passée. Et donc là, on s'est dit, oui, mais ça a été étudié beaucoup en Inde, au Moyen-Orient, des pays où il y a peut-être une ouverture à la notion de réincarnation. Or, on s'est rendu compte, et Stevenson, avant qu'il décède, maintenant c'est Jim Tucker, qui est pédopsychiatre, qui est directeur de l'ADOPS en Virginie, et qui a étudié des cas d'enfants occidentaux, avec vraiment des enfants qui naissent donc dans des contextes protestants, puisqu'on parle beaucoup de c'est aux États-Unis, et donc sans aucune culture ni référentiel, tant chez les enfants, encore moins, que chez les parents, et qui ont pu être vérifiées. Il y avait une série sur Netflix là, qui est passée assez connue. On voit le cas d'un jeune garçon qui s'appelle James Leininger qui décrivait la vie d'un aviateur pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, qui serait mort en mer et se souvenait de détails qu'il ne pouvait pas se souvenir, enfin, lesquels il ne pouvait pas avoir accès. Il y a d'autres choses comme ça qui sont au niveau de cas occidentaux qui sont absolument passionnants. Donc voilà, ces quatre expériences, EMI, VSCD, expérience de fin de vie, souvenir de vie passée, sont des choses très étudiées. Et au bout du compte, c'est quoi ? Pourquoi, quel est l'intérêt de prendre ces quatre entités ? Quand on prend une première entité, les EMI, et qu'on confronte tous les témoignages, et on n'est pas à 10 témoignages, on est à des dizaines et des dizaines de milliers de témoignages, parfois des centaines cumulés au fil des décennies, on arrive à une certaine idée, tiens, il y a quelque chose de l'ordre de la conscience qui serait pas dépendant du cerveau. Mais chaque expérience est critiquable. Mais si on prend les VSCD, les expériences de fin de vie et les souvenirs de vie passée, quand on croise ces différentes informations, on a un faisceau d'arguments qui pointent quelque chose d'essentiel, à savoir une remise en cause du paradigme, du postulat scientifique actuel qui dit que, de point ouvert les guillemets, la conscience n'est que le produit du cerveau, n'est que le produit de l'activité neuronale. Or, c'est le paradigme. Un paradigme, c'est un postulat scientifique. Le paradigme actuel, c'est celui-ci, un paradigme qu'on dit matérialiste dans le sens où on dit que la matière est première, c'est que tout découle de la matière. Or, ce paradigme, il y a ces nouvelles données, les EMI, etc., enfin, les expériences qu'on dit, qui ont du mal à rentrer dans le paradigme. Quand il y a des nouvelles données qui apparaissent face à un paradigme, il y a trois directions. Soit on dit c'est n'importe quoi, c'est de la foutaise, c'est même pas, c'est pas scientifique, on n'étudie pas. Ok, un. Deuxième axe qui est on essaie de faire entrer les nouvelles données dans le paradigme qui existe. C'est d'ailleurs les principales objections à toutes ces expériences. On dit, ça peut être que des phénomènes neurologiques ou biologiques.
Justement, je voudrais poser une question. L'activité neuronale, elle ne se situe pas uniquement au niveau du cerveau.
Non, mais...
Imaginer que la conscience soit partout dans notre corps et que même si le cerveau est off, le cœur à moitié off...
Là, on parle de conscience, c'est-à-dire de capacité à percevoir, de capacité à raisonner, de capacité à ressentir, de capacité à se souvenir.
Et ça peut venir que du cerveau, en théorie.
Ça, en théorie, justement, ça ne peut venir que du cerveau. Le souvenir élaborait de la pensée, élaborait une capacité à évaluer, à juger des situations, à comprendre une situation. Ça, c'est a priori dans ce paradigme l'apanage du cerveau.
Et toutes ces données, s'il est off, ça ne peut pas basculer dans d'autres régions du corps qui ont aussi une activité neuronale et qui prendraient le relais de ce que le cerveau ne peut plus faire.
C'est pas ça du tout qui est décrit, parce que véritablement, si on prend par exemple les sorties de corps et les gens qui décrivent des situations, c'est véritablement leur corps est d'un côté et leur conscience est d'un autre côté, et avec des expériences hallucinantes une étude qui a été menée par Kenneth Ring, qui est un des chercheurs de ce domaine-là, qui a pris des personnes aveugles de naissance ou avec des très forts déficits visuels, certaines donc qui n'avaient jamais vu, et qui, lors de leur expérience, étaient en mesure après de décrire l'environnement hospitalier ou de décrire le lieu de l'accident, et qui, une fois qu'ils revenaient dans leur corps, ne voyaient plus. Donc il y a vraiment quelque chose de la conscience dans sa capacité à percevoir qu'il n'était plus qui n'est pas opérante parce que le cerveau ou l'appareil pour percevoir n'était pas opérant, mais que quand il y avait cette sortie de corps pendant cette EMI, il y avait la capacité à percevoir des choses parfois qu'il n'avait jamais vues.
En mesure de décrire... Je ne vous pose pas la question parce que je doute, hein. Moi-même j'ai fait l'expérience, mais je préfère me faire l'avocat du diable parce que justement, j'entends plein de choses. autour de moi qui disent oui, non, mais si c'est pas le cerveau, ça doit être ailleurs. De toute façon, il n'y a pas d'expérience.
Oui, mais là, Nathalie, c'est clair parce que c'est ce que vous disiez. Quand il y a des nouvelles données, on essaye de faire rentrer les données existantes dans le nouveau paradigme. Et c'est ça, toutes les objections ont pour objectif de dire non, non, le paradigme existant, que la conscience n'est que le produit du cerveau ou même du corps et tout, c'est ça. Mais la troisième axe, c'est qu'on se rend compte que ces données ne peuvent pas rentrer dans ce paradigme-là, et c'est donc une invitation, et c'est ce que des scientifiques anglo-saxons sont en train de dire, une invitation à changer de paradigme, un changement de paradigme donc, pour inclure les nouvelles données. Ça veut dire continuer à faire de la science comme la science a toujours existé. La science a toujours existé de passage de paradigme à d'autres paradigmes. Et à chaque fois qu'il y a des nouvelles données, par exemple, si on prend Copernic, avant, il y avait le paradigme, la Terre est immobile et elle est au centre de l'univers. Eh bien, il y a eu des nouvelles données apportées par les astronomes qui se sont rendus compte avec des nouvelles techniques pour voir les étoiles. Enfin, c'est des nouvelles données qui disaient qu'à un moment donné, ben non, la Terre, elle est mobile, elle n'est pas du tout au centre de l'univers. Et donc, on avait des nouvelles données qui ne cadraient pas avec l'ancien paradigme. Et donc, on a fait évoluer le paradigme. Et donc, on a eu la révolution copernicienne avec les incidences au niveau de la physique, au niveau de la philosophie, au niveau de la religion, au niveau psychologique, enfin, avec plein d'incidences. Et là, je crois sincèrement, hein, ce n'est pas une question de croyance dans ce bouquin, pas du tout. C'est simplement des faits scientifiques qui sont analysés, qui sont maintenant tellement nombreux qu'on peut véritablement les analyser comme des données, n'importe quelle donnée. Et ce n'est pas du tout une question de croyance, c'est simplement dire, OK, et on a certaines limites avec ce paradigme-là. Et donc, au bout du compte, c'est une invitation à quoi ? À élargir le champ des neurosciences. En fait, c'est un bouquin qui appelle à encore plus de sciences. Hein. C'est peut-être qu'il y a une partie des neurosciences qui peuvent étudier la conscience lorsqu'elle est en connexion avec le cerveau et le corps, mais dans d'autres circonstances qui sont décrites par ces expériences-là, il peut y avoir une conscience qui n'est pas dépendante, qui n'est pas localisée au cerveau. On parlerait de conscience non localisée. Et donc, élargissons les neurosciences pour inclure ces deux hypothèses et voir quelle est la nature de cette conscience non localisée. Si elle est localisée, elle n'est pas localisée au cerveau, est-ce qu'elle est localisée quelque part ou pas ? Enfin, ça, c'est vraiment, ce serait la deuxième étape, une fois de dire c'est vrai, c'est pas vrai. Non, on change de paradigme, on inclut qu'il est pertinent et on explore. Donc ça appelle encore plus de recherche. C'est pas du tout une antinomique avec la science actuelle. Pour l'instant, être cartésien, ça veut dire quoi ? Dans le contexte actuel, être cartésien, ça veut dire j'adhère pleinement au paradigme qui dit que la conscience est le produit du cerveau. Mais si on fait évoluer le paradigme en disant que la conscience, en fait, est non localisée, devenir cartésien, ce sera adhérer au paradigme que la conscience est non localisée. Et tout le temps dans la science, ça a évolué comme ça. Il n'y a rien de nouveau. C'est pas le machin absolument extraordinaire, c'est tout le temps il y a des changements de paradigme par paradigme. On dit qu'une théorie, les historiens de la science en parlent très bien, c'est qu'une théorie n'est valable que jusqu'à ce qu'elle est transformée par une autre théorie qui correspond à une description plus pertinente des phénomènes et de la réalité. C'est pas de la croyance. Au XVIIe siècle, là, il y avait des gens qui trouvaient dans leur champ des pierres. On disait, mais les pierres tombent du ciel. N'importe quoi. Et on a ridiculisé les chercheurs qui essayaient d'étudier ces pierres en disant, mais comment elles peuvent être arrivées là? Elles sont tombées du ciel. Il a fallu attendre le 19e siècle, donc des développements, des techniques, des analyses, choses comme ça, pour se rendre compte que ces pierres, c'était des météorites. Et maintenant, on ne dit plus, je crois aux météorites en faisant une croyance. Non, c'est une donnée vérifiée par la science. Ben là, vous voyez, effectivement, les pierres tombent du ciel, c'est des météorites. Et donc, dans peut-être quelques années, on ne va plus dire « je crois aux EMI » ou « je crois aux VSCD » ou « je crois à ces choses-là ». Ben non, ce n'est pas une question de croyance, c'est simplement qu'il y a des données étudiées qui ont fait évoluer un paradigme, je dirais tout simplement. Hein. Et on est peut-être à cette charnière-là.
Et quelle est la méthode utilisée par les scientifiques post-matérialistes justement pour étudier ça ?
C'est la phénoménologie, hein. C'est la phénoménologie, ça, pour faire simple, c'est on prend tous les témoignages, c'est utilisé dans les sciences sociales, dans les sciences sociales, sciences humaines, hein. On prend tous les témoignages des personnes et on essaie de voir quel est les dénominateurs communs. Est-ce que c'est d'expériences qui sont colorées par l'individualité de la personne, par la personnalité, par leurs émotions, par les circonstances, comment on peut trouver un dénominateur commun qui fait le squelette, j'irais, de l'expérience et qui ne renvoie pas à une personne donnée ou une circonstance donnée. Et donc, ça permet, c'est pour ça que quand je vous décris l'expérience de mort imminente, c'est le fruit de cela. On a pris toutes les données, on a évacué les particularités individuelles et on arrive à des corporations, tunnels, lumière, vision des proches, panorama de la vie, circonstances de tu reviens, retour dans le corps, transformation. C'est parce qu'on a pu cumuler ces dizaines de milliers et autres, enfin beaucoup plus maintenant de données pour parvenir à ça. Donc la phénoménologie, c'est quand même une méthode scientifique qui est validée depuis dans la science moderne. Hein, mais c'est sur base de témoignages. Alors les gens disent oui, mais c'est pas valide que c'est sur base de témoignages. Mais il y a énormément de choses qui sont sur base de témoignages. Énormément de données scientifiques. Enfin, je me répète, là, mais sur les sciences humaines et sciences sociales, c'est fondé que sur ça. Que sur ça.
D'accord.
Vas-y, ouvrez.
Ouais. Et qu'est-ce qui vous a justement poussé à oser parler de ces questions-là? Parce que dans votre livre, vous dites que vous avez hésité pendant longtemps.
Oui, mais en fait, il faut bien comprendre comment ce bouquin est parti. Il est en moi depuis longtemps. En fait, dans mon expérience de médecin en soins palliatifs, en accompagnement des personnes en deuil et tout, il y avait plein de récits qui arrivaient, des témoignages de personnes. Et à un moment donné, il y avait une telle récurrence que je me suis dit, mais c'est quoi le cadre? Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Je savais bien que ça existait mais pas aussi, j'étais pas aussi profondément mis là-dedans. Et là, depuis plusieurs années, en me plongeant dans ces études anglo-saxonnes, je me suis rendu compte qu'il y avait une réflexion qui est beaucoup plus avancée que dans les pays francophones, vraiment beaucoup plus avancée, très, très, très pertinente, et qui au bout du compte, c'est une espèce de grande différence entre la connaissance anglo-saxonne et connaissance francophone. Et je me suis dit, bah, c'est utile. Donc, c'est en tant que médecin que j'ai écrit ce bouquin-là. C'est comment ces connaissances-là peuvent être utiles pour les personnes qui les vivent, donner de la connaissance par rapport à ces informations, que les gens après étudient. Dans le bouquin, il y a beaucoup de références, hein, sur les articles, que les gens aillent les lire. Bon, ils sont en anglais, mais aillent les lire pour se faire véritablement leur avis. Et au bout du compte, je me suis dit, bah, voilà, ces données peuvent être utiles pour les personnes. Et c'est là où on me dit, OK, bah, autant l'apporter à la connaissance des gens, en prenant peu de risques au bout du compte. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me fais le porte-parole d'études qui ont déjà été menées, de gens qui ont déjà été tellement critiqués dans les pays anglo-saxons, on les a massacrés, et au bout du compte, ça tient la route. Ça tient la route, et au bout du compte, c'est quelque chose qui devient tellement pertinent, qui serait même anti-scientifique, qui serait même dogmatique de ne pas prendre en compte des données nouvelles, simplement pour préserver un paradigme qui commence à rencontrer ses limites, à savoir que la conscience n'est que le produit du cerveau. Donc c'est vraiment, je pensais que c'était une prise de risque pour moi, mais non, pas du tout au bout du compte. C'est simplement apporter une connaissance qui peut faire du bien également, parce que dans la troisième partie du livre, là c'est vraiment je remets mon habit de médecin. La troisième partie est beaucoup plus personnelle. C'est au bout du compte, qu'est-ce qu'on fait de ces expériences-là? C'est ça qui c'est important. Sinon, on reste. Hein, je fais toujours référence à ce proverbe chinois qui dit: quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Nous, soyons pas idiots. Être idiot, ce serait être dans la fascination, le ah, oh, c'est incroyable, ces choses-là, de ces expériences-là, et oublier de voir ce que ça pointe. Et qu'est-ce que ça pointe? C'est notre vie maintenant. C'est qu'est-ce qu'on peut utiliser, comment on peut se laisser, même si on n'a pas fait ces expériences-là, comment on peut se laisser inspirer, toucher dans le cœur, parce que ça va vraiment dans le cœur, comment on peut être touché par ces expériences et inspiré par les messages qu'ils véhiculent. Ça, c'est essentiel. Parce qu'il y a des messages vraiment en creux dans ces expériences-là, qu'on les étudie et qu'on regarde ce qu'ils véhiculent, il y a véritablement des enseignements importants. Dans le livre, j'en parle de trois. L'accompagnement des personnes en fin de vie, il y a vraiment une approche qui peut être différente. L'accompagnement du deuil, certainement, c'est clairement, ce nouveau regard peut aider à accompagner le deuil. Et puis, plus globalement, pour nous tous, qu'est-ce que ça peut nous enseigner? Par exemple, là, je faisais référence tout à l'heure à ces personnes qui ont dit « Non, tu dois retourner en arrière, tu as des choses à faire. Ben, » c'est important, enfin, c'est essentiel de se dire « Waouh, cette vie, il y a un sens. » Quand les gens font la revue de vie et qu'ils reviennent avec implanté en eux la notion que l'amour est une priorité absolue dans cette existence, ça peut servir de boussole pour guider sa vie. Et ce qui est vraiment essentiel à comprendre également là-dedans, c'est que ces personnes ne font pas référence à une religion établie ou à une spiritualité établie ou à un code moral établi. Il y a aucune référence à un code, ceci est bien, ceci n'est pas bien. Ils ont fait une expérience et d'eux-mêmes, de l'intérieur, spontanément, sans aucune référence morale, ils disent non, les actes d'ouverture du cœur, de bienveillance, les actes qui approfondissent la sagesse, la connaissance, ce sont des axes qui sont les axes qui déterminent une vie accomplie, qui fait que cette vie a du sens, a véritablement du sens. Et pour moi, c'est vraiment là l'enseignement de ces expériences, est-ce qu'on peut en tirer. Et c'est juste le début du chemin. Hein. Il y a véritablement un chemin où un étudiant puisse encore, et en tenant les implications de ces expériences-là, tous les programmes de recherche, moi je les laisse aux chercheurs, aux scientifiques chercheurs. Je ne suis pas chercheur, moi je suis médecin. Et en tant que médecin psychiatre qui accompagne les personnes, eh bien, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment on peut aider les personnes à tirer des enseignements de ces expériences-là, ou pas. Hein. L'idée, c'est de ne pas imposer quoi que ce soit, mais en tout cas, proposer des pistes de recherche et de compréhension de ce qui est vécu dans un quotidien, de ce qui peut donner des axes de vie, peut donner du sens à l'existence, au regard de ces témoignages qui viennent sans aucune référence à aucun dogme, à aucune spiritualité, à aucune philosophie particulière. Et ça, c'est super fort. C'est vraiment extrêmement puissant. Et pour moi, c'est la promesse de ces recherches.
J'ai supprimé pas mal de questions, comme tu sais, vous y avez répondu déjà.
Oui.
Ouais. Je sais pas, tu en as une, Nathalie ?
Peut-on provoquer un contact avec un proche décédé, comme le vivent beaucoup de gens qui n'osent pas toujours en parler, parce que là, vous parlez de contact involontaire. Est-ce qu'on peut...
Alors, dans le livre, je parle de contact avec des décès spontanés, soit via une EMI, soit via l'expérience de fin de vie ou VSCD. Je n'ai pas du tout étudié, amené les expériences qui sont provoquées. Alors, bien sûr, j'en parle pas dans le livre, mais il y a des protocoles de recherche dans les pays anglo-saxons très serrés, très vissés, très, très scientifiquement solides pour étudier la médiumnité, c'est-à-dire l'intervention volontaire par le recours de quelqu'un qui serait désigné comme ayant la capacité d'entrer en contact avec une continuité de conscience d'une personne décédée. Mais j'ai pas une grande connaissance de ça. Ce sera peut-être d'autres sujets, mais c'est vraiment cantonné aux expériences spontanées. Donc, je préfère ne pas parler des choses que je n'ai pas étudiées.
Aubry ?
Comment accompagner au mieux un proche qui pourrait faire en notre présence une expérience de fin de vie ?
Oui, c'est vraiment, je décris dans le livre une situation qui s'est passée en direct avec une dame, j'avais un entretien avec elle était aussi claire que vous et moi à cet instant. Hein. Enfin, je raconte toujours cette histoire-là, mais c'est parce qu'elle est, elle est vraiment très, très significative. Et cette dame, à un moment donné de l'entretien, elle me dit, mais est-ce que j'ai toute ma tête? Je lui dis, bah, oui, vous avez toute votre tête, pourquoi vous me posez cette question-là? Je dis, oui, elle était claire, lucide et tout. Et elle me dit, même si elle était en fin de vie, elle était vraiment claire, lucide et très fatiguée, mais bon. Elle me dit, au bout de mon lit, je perçois diffus mon mari. Donc là, c'est la situation que vous mentionnez. Au bruit, là, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on accompagne. C'est-à-dire, OK, je me suis retourné, dit, moi, je ne la vois pas, mais vous, décrivez-moi. Et elle me décrit, ben, il est, je le perçois, c'est un peu un peu un hologramme. Et qu'est-ce que vous ressentez? Voilà, c'est ça, on explore, en fait. On invite la personne à mettre des mots sur l'expérience. Qu'est-ce que vous ressentez? Ben, il est, je suis très, très apaisé, c'est comme si. Il m'attendait, je perçois l'impression qu'il m'attend parce que je vais bientôt mourir. Est-ce que ça vous fait peur? Dis, non, pas du tout, c'est très apaisé, c'est vraiment, ça me, c'est très doux. Donc voilà, quelque chose d'absolument pas extraordinaire, c'est vraiment très doux et mais ça persiste. Maintenant, regardez là, ça s'estompe. Et me dit, ça arrive plusieurs fois comme ça, plusieurs fois depuis quelques jours. Et 2 jours après, les infirmières m'ont dit, la semaine d'après, quand je suis revenu dans l'unité, que cette dame était décédée 2 jours après, hyper tranquillement, paisiblement. Donc, que faire, c'est demander à la personne, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu as envie de m'en dire quelque chose? C'est vraiment accompagné par des questions, ça veut dire donc valider l'expérience. Valider l'expérience, qu'elle soit subjective ou objective, mais on s'en fiche. C'est l'expérience d'une personne qui décrit quelque chose. Et on peut même, dans la description, percevoir s'il y a des critères qui définissent une expérience de fin de vie, ou alors si c'est des critères hallucinatoires, ou c'est des critères avec des manifestations qui sont peut-être beaucoup plus liées à des atteintes neurologiques qui provoquent des altérations de perception, ou des hallucinations, ou qui sont vraiment très différents, hein, de l'ambiance des expériences de fin de vie. Par exemple, on a des hallucinations, par exemple, hein, quand quelqu'un a des métastases osseuses qui relarguent dans le sang du trop de calcium. On a une hypercalcémie. L'hypercalcémie, donc la charge, trop de calcium dans le sang, peut provoquer au début un délire paranoïaque. Et la personne qui est en fin de vie commence à percevoir les infirmières comme des tortionnaires, perçoit sa chambre d'hôpital comme une chambre de prison et commence à éprouver de la panique. Ça, c'est véritablement une hallucination induite par un processus biologique. Et moi, en tant que psychiatre, dans ces circonstances-là, je vais donner un traitement pour apaiser le délire, pendant que les médecins somaticiens donnaient un traitement pour diminuer l'hypercalcémie. Mais on voit bien que ce n'est pas du tout la même tonalité. Dans tout ce qui est les délires, on a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus angoissé, qui est beaucoup plus une confusion avec vraiment quelque chose qui est très différent de la tonalité calme, sereine, apaisée, récurrente des expériences de fin de vie. Donc les écouter, c'est aussi une façon de pouvoir distinguer où est-ce qu'on est exactement. Est-ce qu'on est dans un truc délirant ou pas? Est-ce qu'on est dans quelque chose qui correspondrait peut-être à l'expérience effective, subjective en train de se passer, ou alors un processus pathologique ou une surcharge médicamenteuse? Donc c'est ça aussi qui est important. On écoute, on accueille, on partage l'expérience, on est présent. De toute façon, en soins palliatifs, en accompagnement de fin de vie, il est toujours demandé d'être présent à la personne et pas lui imposer notre vision des choses en disant tu délires, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai, tu peux pas percevoir ta soeur décédée parce qu'elle est décédée ta soeur, c'est des hallucinations. La personne, elle comprend très vite, hein. Elle se ferme et elle dit ok, je veux pas qu'on me prenne pour folle, je veux pas qu'on me donne des médicaments contre le délire, donc je me tais quoi, je me tais, et je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui, en fin de vie, qui font ces expériences-là, mais qui n'osent pas en parler de peur qu'on les prenne pour folles ou qu'on leur donne des médicaments pour pas délirer. Et c'est pour ça que c'est important de porter à la connaissance du grand public ces données, hein, dans ce bouquin-là, parce que ça permet aux gens de dire, d'être un petit peu outillés pour que s'il survient un expérience de fin de vie, ou même s'il survient pour eux-mêmes ou pour des proches, un VCD avec une possibilité de contact avec la défunte, qu'on peut lui dire, mais oui, c'est marrant, j'ai lu dans un bouquin, mais ça existe, ça, c'est étudié, tu n'es pas en train de délirer, tu n'es pas en train de devenir folle, tu n'es pas en train, t'es pas en train de te rassurer avec des petites béquilles comme ça, même si ça te fait du bien d'y croire, mais enfin, c'est quand même, t'imagines, enfin, c'est insultant, c'est humiliant de balayer une expérience qui est parfois fondamentale pour les personnes. Donc on se pose, on écoute, on répertorie, on cumule les données, on les analyse, on fait de la science. On fait de la science et on analyse les données, on fait des statistiques, on compare avec d'autres types d'expériences, on fait de la science. C'est tout simplement ça. Et on sort du côté fantastique. Et notre société a tout à gagner d'avancer dans ce sens-là parce qu'il y a une richesse dans ces expériences-là, une richesse humaine pour l'accompagnement, puis pour le sens à donner à sa vie, qui est complètement chantée. Il y a une partie complète de notre expérience humaine qui est évacuée simplement pour servir un paradigme tellement limitant que tout n'est que biologique, la créativité n'est que biologique, l'amour n'est que biologique, tout n'est que issu du biologique. C'est vrai dans certains cas, mais prenons en compte d'autres données qui parlent d'autres choses et étudions-les correctement sans les balayer d'un revers de main. C'est un plaidoyer, vous voyez.
Ce qui serait intéressant pour le psychiatre que vous êtes, c'est de se dire, mais tous ces gens qui sont collés dans le paradigme de la matière, matière, mater, mère, pourquoi ouais. est-ce qu'ils sont collés là-dedans et qu'ils ne veulent vraiment pas aller regarder de l'autre
côté? Il y a deux choses, mais il y a deux choses. Hein. On s'est rendu compte, on a étudié aussi pourquoi des gens restaient dans des paradigmes alors qu'il y avait des évidences qui semblaient... Pourquoi ? Parce que quand vous avez été élevé, mettons que vous êtes un scientifique, vous avez été élevé pendant toutes vos études en fonction d'un paradigme vous avez toujours étudié, fait vos programmes de recherche et tout. Ça devient votre identité. Ça devient quelque chose qui structure votre pensée, qui structure votre vision du monde, qui structure votre réalité. Et arrivent des données qui... sont presque une attaque à votre vision du monde, une attaque à quelque chose qui peut même être vécu comme votre identité scientifique. Eh bien, au niveau psy, on sait très bien que dès qu'il y a des attaques, je mets des guillemets attaques, mais des attaques à une identité forte, on riposte violemment parce que il y a rien de plus déstabilisant qu'une atteinte d'identité. Donc c'est aussi pour ça, il y a beaucoup de scientifiques qui rejettent ces idées-là parce que ça remet tellement en question leur perception du réel que c'est juste pas possible. Et là, on est au niveau du dogme, c'est-à-dire qu'on refuse de faire intervenir des données qui ne correspondent pas à ce qu'on croit. Quand Galilée, à l'université de Padoue, il avait son télescope planté sur les lunes de Jupiter et il demande aux scientifiques, regardez dans mon télescope, que diable, mais regardez, vous les verrez. Et le scientifique disait, non, je ne vais pas regarder parce que ce n'est pas possible. Je ne vais pas regarder parce que ce n'est pas possible. Bah, regarde, garçon, tu vas voir qu'on perçoit des choses. Et là, on voit qu'il y a une identité. Hein. Et là, la raison, ce n'est pas être têtu, ce n'est pas être obstiné, c'est que c'est vraiment quelque chose qui, très intimement, il me semble, touche véritablement une identité, ce qu'on s'est construit autour d'un paradigme. Et je comprends à 100% qu'on ait besoin de défendre une dimension identitaire, bien sûr. Mais est-ce scientifique? Je ne sais pas.
Aubry?
Est-ce que vous, quand on parle de personnes qui ont des contacts avec des personnes décédées, des proches, on peut imaginer que ça peut les aider dans leur deuil, mais est-ce que ça peut aussi empêcher les personnes de souffrir de ce deuil-là, justement?
Alors, c'est important à mentionner. Dans le livre, vous voyez, je me positionne pas en opposition farouche, mais j'ai une grande prudence par rapport à tout ce qui est médium. Parce que quand chercher à contacter la personne décédée via un médium maintient le lien à l'extérieur avec la personne et s'oppose un peu au processus de deuil qui est justement d'intérioriser la relation. Hein. Ça crée une dépendance aussi avec une personne et on ne sait pas qui est cette personne. D'accord ? La première chose. Mais ça, c'est autre chose. Donc, si on prend les VSCD, il a été dans une étude menée sur les VSCD qu'il y a un bénéfice par rapport au fait d'avoir fait un VSD par rapport au vécu du deuil. Mais j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui ont fait des VSD, ça n'enlève jamais la douleur de la perte, jamais le manque. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une maman a fait un VSD avec son enfant disparu que le manque ne va pas s'inscrire dans sa vie, qu'elle va devoir vivre sa vie sans son petit garçon. Il ne peut pas le faire un bisou le matin, pas un bisou le soir. Noël, il n'est pas là. Donc vraiment, il y a toute cette souffrance, toute la dimension psychologique du deuil, différentes étapes hein, que je décris dans un de mes ouvrages. C'est vraiment là. Le manque persiste. Et alors, alors bien sûr, le VSD rajoute à la dimension psychologique du manque existentiel. Il y a cette souffrance-là. Il y a la dimension spirituelle qui vient éclairer cela, mais ça ne peut pas remplacer. Jamais, 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 j'ai vu des personnes qui, suite à un VSD, avaient fait l'économie du processus de deuil et ne vivaient pas le manque ou l'absence de façon douloureuse. Jamais. Mais les deux peuvent aider, parce que c'est véritablement pouvoir se dire, oui, il y a une continuité de la conscience de la personne que j'ai perdue, je ne comprends pas pourquoi je l'ai perdue, je ne comprends pas pourquoi je dois vivre ceci sans elle, mais quand on regarde ces expériences-là, on dit, mais peut-être que ça veut dire quelque chose. C'est ça qu'il faut continuer à étudier. Peut-être que ça a un sens, peut-être que ce n'est pas aussi absurde que ça d'avoir perdu mon compagnon ou ma compagne, mon parent, mon enfant, et que je dois vivre ce temps de vie sans toi.
Sans eux.
Hein? Est-ce que ça aurait du sens? Est-ce que ça voudrait dire quelque chose? Et quand on écoute les témoignages de EMI ou expérience de mort imminente ou de VSD, très souvent les personnes décédées disent je vais te retrouver plus tard, mais tu as des choses à vivre avant. Hein? Et ça vraiment, c'est pour ça que je me focalise sur cette vie, parce que ces messages-là nous disent on a des choses à vivre. Même si ce sont des choses dans le manque, dans l'absence, on ne comprend pas. Je pense que ce qui est étonnant, c'est que les personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, quand ils sont de l'autre côté, beaucoup disent « j'avais une raison, j'avais une compréhension très claire, c'était évident pourquoi j'étais dans cette vie, c'était évident. Et j'ai oublié en revenant dans cette vie. Mais je sais que je sais maintenant que j'ai su pourquoi j'étais ici. Et pourquoi j'étais ici a une raison. C'est fondé aussi, terrible que ça puisse être. Et c'est cela d'ailleurs qui, après des tentatives de suicide, des gens qui ont fait des EMI après des tentatives de suicide, dans l'immense majorité, n'en refont pas parce qu'ils ont compris dans leur expérience qu'il y avait quelque chose qui, en dépit des choses épouvantables qu'ils pouvaient vivre dans cette vie-là, devait être vécu. Mais il y a aussi... des VSD de personnes qui se sont suicidées, qui vont voir leurs proches et leur dire « Ok, ne t'inquiète pas, tout va bien pour moi. » Donc, il y a vraiment un pan important. Moi, je travaille beaucoup avec les personnes en deuil après suicide. Donc, il y a vraiment un pan d'étude sur suicide versus ces expériences-là. Hein, parce qu'il faut vraiment continuer à creuser, continuer à approfondir cela, parce que il y a vraiment un champ d'exploration, un champ d'étude qui peut vraiment être très bénéfique pour les proches en deuil après suicide, beaucoup de culpabilité, beaucoup de tourments, beaucoup de souffrances, qui peut être apaisée à travers la connaissance de ces expériences-là, et en même temps, une invitation à, pour les gens qui auraient des aspirations suicidaires, de dire, non, cette vie, tu as quelque chose d'important à faire pour toi, donc, le suicide, comme dirait une personne, j'ai repris son expression dans le livre, excusez-moi, une personne qui dit « le suicide n'est pas une option viable ». C'est bizarre de formuler comme ça, mais ce n'est pas une option viable par rapport à ce qu'on est censé verser cette vie. Mais là, il y a à creuser plus. Hein. Vraiment, il y a à creuser plus. On veut pas, il n'y a pas encore assez de données pour vraiment qu'on puisse avoir vraiment un périmètre assez global de compréhension de l'interaction entre suicide et ce type d'expérience-là.
Mais j'avais une question qui me venait comme ça. Ouais. Pour toutes les personnes, vous et moi, qui n'ont peut-être pas fait ces expériences-là et qui donc sont dans l'oubli total de toute dimension ailleurs qu'ici. Comment est-ce qu'on peut, au-delà de lire des témoignages, donc ça peut nous apaiser, nous aider, etc., mais pour intégrer vraiment des leçons de vie, on a l'impression qu'on doit vivre nous-mêmes la chose, mais comment
non, voilà, c'est oui. Mais c'est vrai que on a que seul moyen de lire, de prendre connaissance de ces choses-là, de lire, ouais. Parce que par la connaissance, il y a déjà des choses qui changent. J'ai lu un article, tous les chercheurs qui travaillent là-dessus, tous les gens qui travaillent là-dessus, qui ont cette proximité avec ces expériences-là, curieusement, ça induit des effets chez eux aussi. Je suis le premier à voir ça. J'ai pas fait d'EMI, des choses comme ça. VSCD, oui, mais pas d'EMI. Et ça a un vrai impact sur la peur de la mort. Pas le processus du mourir avec la douleur et tout, hein, mais la mort en tant que telle, la mort en tant que fin de la vie, ça a un effet positif. Et il y a même une professeure de, je ne sais plus de quelle université américaine, qui avait fait un module des cours sur, un module de formation sur ces expériences-là. Elle avait fait une enquête, une petite évaluation sur les étudiants avant le cours, leur état de leur croyance par rapport à la mort, leur peur de la mort, qu'est-ce qui, etc., etc. Et après le cours, et elle a fait la même enquête. Et il y avait vraiment des différences majeures sur la peur de la mort, différences majeures sur la confiance que cette vie avait du sens. Enfin, il y a un effet positif par le simple fait de lire ces choses-là. C'est vrai qu'on n'a que la lecture, mais on n'a pas que la lecture, en fait. On se rend compte que, mais ce n'est pas prôner un retour à la dimension religieuse, bien évidemment, mais on se rend compte qu'il y a des comme il y a dans cette approche scientifique quelque chose qui décrit quelque chose, un phénomène. Mais on se rend compte que la dimension spirituelle, des spiritualités depuis la nuit des temps, décrivent aussi quelque chose qui pourrait être la même chose. Donc, ça pourrait, je mets du conditionnel, hein, que être quelque chose qui, en respectant les territoires de chacun, la science doit rester la science, la spiritualité doit rester la spiritualité, mais que peut-être plus de rapprochement qu'au 19e siècle, il y a eu vraiment cette séparation massive, la science matérialiste et l'Église, principalement. Donc, c'était hermétique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de réticence à essayer de rapprocher les autres. Donc, peut-être lire, prendre connaissance de ces expériences, de ces études-là, et voir, en fonction de son histoire, de son parcours, de son éducation, s'il y a des résonances avec des dimensions spirituelles plus établies, je dirais, plus qui sont issues de toutes les dimensions ésotériques des religions, donc ça, le soufisme, la kabbale, ou le mysticisme chrétien, enfin, des choses qui sont déjà existantes, qui utilisent leurs mots particuliers pour décrire ces types d'expériences-là, parce qu'elles décrivent ces expériences-là, et voir si en soi, mais c'est vraiment de soi à soi, on fait des ponts, et des ponts qui pourraient, pour soi, avoir une cohérence. Là, on est vraiment dans la démarche individuelle, la démarche de chaque homme, de chaque femme qui avance et essaye de donner du sens. Mais cette connaissance, on dit toujours, avec la connaissance vient le pouvoir, pas le pouvoir, mais le pouvoir, pouvoir comprendre, pouvoir approfondir. Voilà, la connaissance est source de pouvoir, est source d'intelligence, est source de pouvoir amener sa vie sur des chemins peut-être qu'on n'avait pas pensé. Et si ces expériences-là, leur connaissance, a un impact sur les gens au point de les aider à guider leur existence vers quelque chose qui a peut-être plus de sens, plus de profondeur, tant pour eux-mêmes que pour les autres, et qu'en relation avec tout le vivant, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'essayer, ça vaut le coup d'explorer et d'accorder du crédit à ce qui est raconté.
Tu veux la dernière question, Aubry, pour clore la conversation ?
Oui, c'est un peu de la curiosité, mais est-ce que vous dites que vous avez vécu des VSCD vous-même ?
Oui.
Est-ce que vous voulez le partager un petit peu ou c'est...
Non, c'est trop intime pour en parler au public, oui. mais j'ai eu, après le décès de ma mère, j'ai eu quatre VSCD qui ont été des VCD de perception, mais aussi des VCD via l'électricité. Là, je n'ai pas développé tout à l'heure, mais des quatre VCD tellement impossibles, tellement impossibles et tellement au feu de ma critique et de mon incrédulité que je ne peux que considérer ça comme pertinent. Hein. Et les expériences aussi de fin de vie dont j'étais témoin, j'en ai été témoin. Hein, et de gens qui racontaient des choses. Hein. Donc, dame qui dit, mais ma petite fille qui est décédée, elle est sur le rebord du lit, ma petite fille. Elle est là, mais je l'aperçois, mais c'est incroyable. Je l'aperçois. J'étais témoin de ça. Donc, et le nombre de personnes qui racontent des EMI, ce qui est étonnant, c'est que depuis que le bouquin est sorti, des personnes que je connais depuis des mois et des mois ou des années en tant que patient, ils commencent à me raconter ça en me disant, ben écoutez,
je ne vous l'ai jamais dit, docteur.
Je ne vous l'ai jamais dit, docteur, mais j'ai vu que vous avez écrit là-dessus, je pourrais vous raconter un truc. Et une dame qui raconte une sortie de corps, une autre qui me raconte un accident, enfin, des sorties de corps, des EMI, des VSCD, alors que c'est des gens que je connais super bien. Et qui n'avaient jamais osé me raconter ces trucs-là. Ils disaient, ah, ils avaient écrit dessus, donc il ne va pas me considérer comme fou, comme folle.
Oui, c'est ça, il ne va pas donner de médicaments.
Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de personnes qui font ces expériences-là. Et donc, à la fin du livre, hein, j'ai créé une adresse mail avec un appel à témoignage pour si les gens font eux ou des proches soit une EMI, VCD, expérience de fin de vie, éventuellement souvenir de vie passée de leur enfant, hein, parce que ça peut être ça aussi, d'utiliser cette adresse mail, cette vie au-delà, gmail.com, enfin, elle est dans le bouquin. Voilà, donc pour continuer à étudier, pour continuer à avancer, parce qu'on n'est qu'au début du chemin, hein, on est au début du chemin, ça va s'approfondir et se normaliser. Il faut qu'on sorte du côté fantastique, fascination, extraordinaire. Ouais. Ça ne sert à rien ni à personne. Et au contraire, ça bloque certains scientifiques qui n'ont pas envie de se frotter à ce genre de choses. Ce qui est dommage, parce que quand on le prend de façon très sereine, très, très basique, on a vraiment des champs d'exploration absolument passionnants.
Merci beaucoup, docteur.
Merci, Nathalie.
Et on espère que nos auditeurs, visionneurs, etc., seront très, 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 très nombreux
J'espère.
À lire votre livre, à le conseiller, à l'offrir et à le diffuser au maximum.
Voilà. Et surtout à se faire pour eux-mêmes une idée. C'est ça, le bout du compte. Hein. Il n'y a rien à croire.
Non.
Ayez accès aux informations et faites-vous votre idée. Parce qu'il n'y a rien de plus pertinent que son propre expérience, sa propre opinion. D'accord? C'est important, ça.
Merci.
Merci beaucoup. Au revoir.